Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal, la grande édition de la meilleure journée de ce samedi. Tout d'abord, le sommaire. Trois personnes ont été tuées par balles et trois autres blessées dans la nuit de ce vendredi lors d'une attaque des malfaiteurs munis d'un fusil en zone Rohero. Et les cas de grossesse en milieu scolaire ont chuté en province de l'Outana. Ils ont passé de 100 cas en 2017 à une cinquantaine l'année passée. Au sommaire également de cette édition, c'est le reportage du jour qui nous parlera du climat sain que les représentants des partis politiques en province Muyinga apprécient positivement. Et à la fin de cette édition, Francine Ndiokoubgayo et Evariste Ndikobanyanga vont me rejoindre au studio pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute et bienvenue. Sécurité après d'abord, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une fusillade perpétrée dans un bar situé à l'avenue Muyinga dans la zone urbaine d'Oroyero vers 21h de ce vendredi. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique fait savoir qu'il s'agit des malfaiteurs non encore identifiés munis d'un fusil de type Kalachnikov qui ont commis ce forfait. Les blessés ont été vite évacués vers les structures de santé. Moïse Ngurunziza indique que d'après le veilleur, ces hommes armés sont arrivés au bar chez Gilbert à bord d'un véhicule de type Ractis dont la plaque n'a pas été identifiée et que les enquêtes sont en cours. Média à présent, le tribunal de grande instance de Boubanza a décidé le maintien en détention préventive des quatre journalistes et leur chef du groupe de presse Iwachu. Les organisations internationales Reporters sans frontières et Human Rights Watch condamnent ces arrestations et plaident pour leur libération. Christine Kamikadi, Agnès Ndiroubusa, Ejida Ririmana, Terence Modenzi ainsi que leur chauffeur Adolphe Masabarakiza ont été appréhendés le 22 octobre alors qu'ils enquêtaient sur l'insécurité qui prévalait en commune Musigati de la province Boubanza. Sur ce, le procureur général de la République a sorti un communiqué de presse jeudi le 31 octobre de l'année en cours où il a indiqué que ces gens n'ont pas été appréhendés parce qu'ils sont journalistes mais à cause des faits qui leur sont reprochés. Transport à présent, le manque de bus de transport en commun qui s'observe à mairie de Bujumbura va bientôt trouver solution. Cette annonce est du secrétaire permanent au sein du ministère des Travaux publics lors de la présentation des réalisations trimestrielles de son ministère ce jeudi. Égide Denis Djimbéré a fait savoir que le gouvernement a accordé des exonérations aux opérateurs de ce secteur. Concernant les travaux de réhabilitation du port de Bujumbura, il a indiqué que les travaux ont déjà démarré sur le financement de différentes organisations internationales. Les détails avec Charles Makoto.
Lors de la présentation des réalisations du ministère des Travaux publics des trois mois écoulés, Edji Denis Djimbéré, secrétaire permanent au sein de son ministère, a indiqué que les travaux de réhabilitation du port de Bujumbura vont bon train et salir l'apport des partenaires dans ce projet.
Si le port de Bujumbura, les travaux de modernisation et d'extension du port de Bujumbura composés de deux phases sont aux étapes suivantes. La phase 1, sur le financement de la JICA, Japan International Cooperation Agency, les travaux sont en phase de démarrage depuis octobre 2019. Ces travaux couvre un montant de 25 millions de dollars. La phase 2, sous financement de la BAD et de l'Union européenne, l'équipe technique de l'Union européenne a déjà adopté le cofinancement des travaux pour un montant de 21 millions de dollars et le conseil d'administration de la BAD va se réunir le 27 novembre 2019 pour le déblocage des fonds pour enfin couvrir un montant total de travaux englobant 50 millions de dollars pour l'ensemble des travaux sur le port. Le dossier d'appel d'offres est en cours d'actualisation et va inclure une partie de la voirie urbaine, principalement les voies d'accès sur le port.
À propos de la carence des bus dans le transport urbain, Égide Ndjimbéré indique que ce problème sera bientôt résolu du fait que le gouvernement accorde des avantages aux importateurs.
Concernant les files d'attente à mairie de Bujumbura, les bus ont été introduits par les particuliers pour pouvoir donner secours à ce défi. Vous savez que le gouvernement du Burundi a déjà octroyé des faveurs pour les gens qui vont importer des bus, transporter beaucoup de personnes. Je pense que cette politique va aider progressivement.
Il a également indiqué que le gouvernement du Burundi compte initier un projet de taxation de ces véhicules de transport en commun.
Sans transition, page éducation, les cas de grossesse en milieu scolaire ont sensiblement diminué en province Routana depuis l'année scolaire 2016-2017. Le directeur provincial de l'éducation dans cette province dit que les cas ont passé de 101 cas en 2016-2017 à 56 cas en 2018-2019. Selon son responsable scolaire et le gouverneur de cette province de Routana, cette réduction émane des sensibilisations organisées dans les écoles et à l'intention des parents, n'est-ce pas Gérard Nibigira?
Les statistiques fournies par le directeur provincial de l'éducation de la formation technique et professionnelle Arutana Ngenzebohoro Simeo montrent que 101 cas de grossesse ont été enregistrés dans des écoles fondamentales et post-fondamentales de la province et l'année scolaire 2017-2018, 81 cas, au moment où l'année scolaire dernière 2018-2019, c'est 56 cas. Pour Ngenzebohoro Simeo, cette réduction émane de la sensibilisation des partenaires variés.
Nous travaillons ensemble avec les organisations, les partenaires, notamment l'IADH. Aussi, le ministère de l'Éducation a instauré un système de tantes et pères. Ce sont des personnes qui écoutent les enfants au niveau des écoles pour les soumettre le problème qui surgit au niveau des écoles. C'est à partir de ce moment que les enfants obtiennent des conseils de part et d'autre de ces tantes et pères éducateurs. C'est pourquoi donc il y a tendance à la diminution.
Quant à lui, le gouvernement de la province de Routana, Fidel Minani, indique que l'administration a aussi contribué en matière de sensibilisation.
Depuis l'année passée, nous avons organisé des ateliers à l'endroit des administratifs locaux, les administrateurs, les chefs collinaires, les chefs de zone et ceux du secteur de l'enseignement, notamment les DCI, les directeurs des différentes écoles. Et ces ateliers ont été organisés au niveau de chaque commune. Donc, nous avons beaucoup débattu sur cette question et nous avons sensibiliser la population qui tasque les chefs de famille puissent encadrer les enfants et leur donner de bonnes informations et l'utilité de l'école, mais aussi de bonnes manières burundaises qu'il ne faut pas se livrer à de tels actes contraires à la coutume burundaise.
Certains éducateurs et motards sont les plus pointés du doigt comme principaux auteurs de grossesse en milieu scolaire à Routana. Depuis Routana, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro.
Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel.
Page économie à présent, le réseau des institutions de microfinance RIM en sigle trop fondé. L'idée de certaines autorités publiques qui demandent la réduction des taux d'intérêt sur les crédits contractés dans les banques. Bernard Kignata, président du conseil d'administration de ce réseau, l'a dit jeudi dernier lorsque le monde célébrait la journée mondiale de l'épargne. Cela étant, le président du conseil d'administration du réseau des institutions de microfinance demande qu'il y ait des mesures d'accompagnement au cas où ce projet de réduction des taux d'intérêt serait mis en application. On l'écoute.
En ce qui nous concerne au niveau du réseau des institutions de microfinance, nous saluons cette mesure du gouvernement. Parce que c'est une décision qui vient pour adoucir les conditions d'accès au crédit. Ce que je voudrais seulement faire remarquer, c'est que dans la fixation du taux d'intérêt sur les crédits pratiqués par les institutions de microfinance et les autres banques, c'est que le taux sur les crédits est lié au taux de rémunération de l'épargne. C'est également lié au taux d'acquisition d'autres sources utilisées par les institutions financières dans l'octroi de crédit. Et en règle générale, le taux d'intérêt sur l'épargne est inférieur au taux sur les crédits octroyés à la clientèle, étant donné que les institutions financières utilisent l'épargne pour transformer l'épargne en crédit. Il s'entend que, comme les institutions financières, les institutions de microfinance et les autres banques doivent dégager des produits pour couvrir les charges d'exploitation, il s'entend que le taux d'intérêt sur les crédits devrait être supérieur au taux de rémunération de l'épargne. Cependant, s'il y a des ressources additionnelles qui sont injectées dans le système financier pour adoucir les conditions d'accès au crédit, ces mesures sont évidemment les bienvenues et viennent faciliter l'accès au crédit et la gestion du crédit du côté des demandeurs des emprunts. Et cette mesure est déjà d'application, mais le gouvernement a mis également en place d'autres mesures d'accompagnement pour que cette diminution du taux d'intérêt sur les crédits puisse être opérationnelle.
Toujours page économie, l'adhésion aux coopératives n'est pas encore massive en province de Lomongue. Dans un débat autour du rôle des coopératives dans le développement local organisé par Eaga ce vendredi, certains habitants de cette province reviennent n'avoir pas d'informations relatives. D'autres hésitent toujours à y adhérer à cause de leur passé non rassurant. Tous convergent sur la part des coopératives dans le développement à condition qu'elles soient bien organisées. Jean-Pierre Misago, correspondance.
À part que certains des participants dans ce débat avouent qu'ils n'ont aucune information sur les coopératives, il y en a qui déclarent y avoir adhéré parce que ce sont des coopératives soutenues par le gouvernement burundais. D'autres ne savent pas encore comment ils en tireront profit. Ici, d'autres encore veulent savoir les innovations apportées dans ce secteur qui a échoué dans le passé. Une employée de la microfinance Ishaka qui suit les activités des coopératives collaborant ou qui désire collaborer avec cette microfinance explique au cours de ce débat qu'à part que certaines coopératives sont fondées sur des lois non bien élaborées, d'autres encore sont ruinées parce qu'elles ont été initiées et sont dirigées par des gens qui n'ont pas assez de connaissances dans ce domaine. Tous les participants dans ce débat convergent sur l'idée que les coopératives sont une base pour le développement d'un pays, mais il faut qu'elles soient régies par des textes bien élaborés et encore faut-il que leurs dirigeants et même les membres soient formés en la matière pour avoir de bons résultats. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro.
Merci Jean-Pierre Misago. Quittons l'économie vers l'environnement où les petits exploitants de l'or utilisant du mercure sont appelés à diminuer les quantités utilisées car nuisibles à la santé et à l'environnement, explique le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE. Lors d'une présentation d'un rapport sur l'utilisation du mercure dans l'exploitation des minerais cette semaine, Berkima Satungimana appelle ses exploitants à unir leurs forces autour des coopératives. Suivez-les.
En avril 2014, le gouvernement du Burundi a signé la convention de Minamata. Et rappelons que la convention de Minamata, c'est une convention qui vise à réduire ou l'élimination de l'utilisation du mercure dans des petites exploitations de l'or. Et en 2017, le ministre ayant en charge l'environnement, l'agriculture et l'élevage a présenté le document pour qu'il puisse être ratifié par le gouvernement. Mais les membres du gouvernement ont constaté qu'il n'y a pas une base. Donc on devrait d'abord savoir l'état des lieux de l'utilisation du mercure dans l'exploitation à petite échelle. Le présent document vise à montrer les défis que comporte l'usage du mercure dans ces petites exploitations. C'est ce que vise donc le document. Si donc on essaie d'analyser le document, vous avez vu qu'il y a beaucoup de méfaits de l'usage. Il y a de la pollution de l'environnement, il y a beaucoup de maladies. Donc, dit à l'usage du mercure qui attaque l'homme et les animaux, il y a l'eau qui est polluée, puisque vous avez vu que la plupart donc, des gisements d'or se trouvent à proximité des cours d'eau. Donc, c'est ça que nous avons voulu montrer à ces petits exploitants utilisant le mercure. Je tiendrai aussi à faire un appel à ces usagers de se regrouper en coopérative ou en association. Comme ça, ils vont mettre les moyens ensemble et procéder à l'exploitation industrielle. Le mercure contribue à la pollution de l'air, à la pollution de l'environnement. Et puisque c'est un élément qui est volatile. Donc aussi, une fois il est utilisé, donc il se volatilise dans l'air. Et vous connaissez que c'est l'air que nous respirons.
À la source, reportage.
Les représentants des partis politiques dans la province de Muyinga apprécient positivement la cohabitation pacifique entre leurs formations politiques et l'administration pour éradiquer les cas d'intolérance politique. Ils témoignent que la mise en place du comité mixte de sécurité au niveau provincial, réunissant les partis politiques, la police, l'administration et la justice, a permis la réduction remarquable des violences entre les jeunes. Aline Manerabarusha, gouverneur de la province de Muyinga, promet la création de tels comités jusqu'au niveau collinaire Placide Niomongere.
Selon Jérôme Ntibibogora, commissaire provincial de la police à Muyinga, des violences basées sur l'intolérance politique entre les jeunes étaient monnaie courante dans les communes de Butihinda et Gasogwe. Aline Manirabarusha, gouverneur de cette province, explique que l'urgence a été la mise en place d'un comité provincial mixte de sécurité qui joue le rôle de cadre de dialogue pour échanger illico presto sur une situation qui s'oppose.
Nous essayons ensemble et puis nous discutons. Nous disons le parti là ou bien l'administration, il y a ce qui creuse dans l'administration, elle se creuse dans les partis politiques. Et dans son cas, nous trouvons une solution meilleure.
Ce cadre de dialogue a été une solution pour assainir le climat entre les jeunes des partis politiques, témoigne Sokour Saïdi, secrétaire provincial du parti Prona.
Ce comité de sécurité, on se donne des conseils. Vraiment, comme ça a commencé, moi je conseillerais que ce comité soit permanent.
Il y a encore à améliorer malgré l'existence de ce comité provincial, note le représentant du parti CNL. Mais la situation entre les jeunes des partis politiques, note Bizima La Prospère, évolue positivement. Vu le pas franchi, Aline Mani Labarusha, gouverneur de la province de Muyinga, annonce déjà la mise en place de comités pareils jusqu'au niveau des communes avant la fin de cette année pour assainir davantage le climat politique dans sa province.
Quand il y a des problèmes au niveau de la province, tu vois aussi, au niveau local aussi, il y a des problèmes. Mais maintenant, je me suis engagé de faire une tournée pour ces jeunes dans toute la province. Et je suis sûr qu'avant la fin de l'année, ça sera vraiment terminé dans toutes les communes.
Cette autorité provinciale appelle plutôt les militants des partis politiques, les jeunes en particulier, à éviter des messages ou slogans pouvant susciter des violences et aussi à rompre avec la globalisation afin que tout fauteur de troubles soit poursuivi indépendamment de sa formation politique.
Merci Placide Niyomungere. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. Mais avant de vous quitter, dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir.
Revue de la presse.
Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute.
Nous ouvrons cette revue hebdomadaire de la presse par l'éditorial du journal Iwachu.
Notre confrère revient sur l'incarcération de 4 reporters du journal Iwachu et leur chauffeur, tous poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. L'annonce de la remise à nos confrères des ordonnances de mise en détention préventive est tombée comme un coup perré, surtout après les assurances de leurs avocats. L'éditorialiste d'Iwachu rappelle Kanyes Ndiroubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi et Adolphe Massabarakiza, leurs chauffeurs ont été arrêtés en plein exercice de leur métier. Aujourd'hui, selon son confrère, avec cette détention, c'est cet élan professionnel qui est remis en question, cette volonté de faire du bon journalisme qui se retrouve hypothéqué.
Notre enseignement est-il de qualité? Cette interrogation reprise par le journal La Voix de l'enseignant est celle du professeur Joseph Ndaïsaba dans son exposé sur les défis du système éducatif burundais.
C'était ce jeudi lors de la célébration de la Journée mondiale des enseignants à mairie de Bujumbura, une fête généralement célébrée le 5 octobre de chaque année depuis 1994. Le professeur Ndaïsaba a indiqué que le public a tendance à considérer la qualité de l'enseignement sur les indicateurs périphériques comme les difficultés de parler, de lire ou d'écrire en français. Pour lui, cet indicateur est le plus saillant et le plus gênant pour les apprenants et les enseignants en tant que langue d'enseignement et pour le public et les employeurs en tant que langue de travail et de conversation.
Dans son analyse que nos confrères de la Voix de l'enseignant reprennent, le professeur Ndaïsaba souligne que le niveau du français est le grand indicateur de la moindre qualité de l'enseignement burundais. Il fait comprendre qu'en tant que langue d'enseignement, la faible maîtrise du français gêne les apprenants et les enseignants, mais aussi le public et les employeurs en tant que langue de travail et de conversation. Selon ce journal de l'éducation, identifie 5 piliers sur lesquels repose la qualité de l'enseignement.
Il s'agit d'un contexte socio-économique et politique favorable, des enseignants bien formés, qualifiés, des infrastructures, équipements, outils d'apprentissage disponibles, des méthodes d'enseignement efficaces pour aboutir à un enseignement de qualité avec des taux de réussite élevés. Le professeur Joseph Ndaïsaba fonde ses espoirs sur le facteur enseignant.
Éducation toujours. toujours avec l'agence burundaise de presse qui rapporte que la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi pourrait d'ici peu connaître une restructuration avec des offres de formation professionnalisantes, quitte à aider les étudiants à s'orienter et s'intégrer facilement dans la vie professionnelle. C'est le doyen de cette faculté, Dr Gélase Nimbona, qui a fait cette révélation, expliquant, entre autres raisons, qui militent en faveur de la restructuration de cette faculté.
D'une part, a-t-il dit, dans les colonnes de l'ABP, la faculté a le souci de diversifier les offres de formation en vue de répondre efficacement aux besoins de la société. D'autre part, la faculté envisage cette restructuration pour essayer d'adapter de façon optimale les offres de formation sur l'axe de l'adéquation formation-emploi, qui est la clé même du système BMD. Le doyen de la faculté des lettres souligne toujours dans les colonnes de l'ABP qu'un atelier de validation des nouvelles offres de formation envisagées au sein de cette faculté par des experts a eu lieu le 10 septembre 2019, ce qui est une des étapes vers l'accréditation des programmes par la Commission nationale de l'enseignement supérieur.
Revue de la presse.
La BRB a mis en place de nouvelles orientations de la politique monétaire, écrit Burundi Echo. Parmi ces dernières, il y a la réduction du taux d'intérêt appliqué aux agriculteurs, aux éleveurs et aux industriels jusqu'à 8%.
L'objectif est de promouvoir les secteurs agro-pastoraux et industriels, selon ce journal, et tel que présenté par Pelagie Nyandwi, chargée du service de la politique monétaire à la BRB. Parmi ces mesures, l'on cite la réduction des taux de refinancement et des taux d'intérêt appliqués aux crédits contractés pour ces secteurs. Elle précise que les banques seront refinancées par la BRB au taux de 2% pour le financement direct des projets. Elles vont se refinancer à 1% auprès de la BRB et vont ajouter une marge de 2% pour le refinancement des institutions de microfinance.
Ce journal précise que les banques et les institutions de microfinance sont invitées à appliquer les frais et les commissions qui n'alourdissent pas le coût effectif du crédit et qui doivent appliquer les systèmes de taux dégressifs dans l'amortissement des crédits.
Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par
Francine Ndokugayo
et Evariste Ndikubanyanga. À la prochaine.
Revue de la presse.